Christina, soyez les bienvenus avec
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez dit, Morgane, Yannick Nian, Florence Mendez, tout à l'heure, Tanguy Pastureau, Daniel Morin,
oh, oui,
et notre invité, Leïla Bekti. L'excellente Leïla Bekti, accompagnée de Damien Bonnard, tiennent ce film de Joachim Lafosse qui s'appelle Les Intranquilles. Super film et super bien joué, surtout parce que les deux...
Leïla, ça nous a surpris, Damien... d'ailleurs.
Non, mais c'est quand même... Il y a un moment où c'est... Je sais pas comment le dire, mais quand un film est bien joué par des acteurs, c'est un plaisir. Au-delà de l'histoire, du sujet, de tout ça, mais voilà, ouais. C'est juste la
Et puis Gabriel Mertz-Chama, le petit garçon Amine, il est exceptionnel.
Il est bluffant. C'est le fils, petit-fils d'Isabelle, voilà, petit-fils d'Isabelle Huppert et fils de Lolita. Il est absolument formidable. On va en parler avec eux dans quelques instants. Les Intranquilles, tu découvres plein de trucs.
On en apprend tous les jours.
Demande-moi.
T'as 5 minutes pour changer le papier.
Les Intranquilles. Alors, quel blind test on peut faire sur Les Intranquilles? Je vous ai embarqué vers ça.
Daniel. Jésus revient.
Ouais, Daniel.
Jésus revient.
Oh, waouh.
Son prénom, Florence, d'avoir
un pourquoi Jésus?
Je sais pas pourquoi, mais...
Parce que
la vie est un long fleuve tranquille.
Tranquille. La vie est un long fleuve tranquille.
Moi, j'avais préparé un blind test folie.
Trucmuche la blonde là.
Tu as un prénom peut-être? Tu t'appelles Florence?
Florence. Louane.
Exact.
J'ai un peu honte. Hein.
Non, pourquoi?
Qu'est-ce qu'elle a trouvé?
Ah, je croyais que t'avais honte sur Trucmuche la blonde, mais non.
D'accord. Moi, c'est plutôt là-dessus, mais.
En tout cas, c'était un bon indice.
J'étais dans son clip avec Grand Corps Malade.
Mais non.
Si, je fais.
C'est toi, Grand Corps Malade. Yes.
Qui chante ça?
Leïla.
Daniel.
Un autre monde.
Ouais. Mais alors, mais qui chante?
Téléphone.
Pourquoi non. Tranquille.
Les insus. Ah.
J'ai tranquille et j'ai un tranquille. Oh, j'ai pas trouvé avec un tranquille, donc j'ai fait un peu de un et un peu tranquille.
Ok.
Et venez m'aider à 3h du matin et après on verra ce qui se passe. Hein.
Encore.
Ah non, à 3h du matin, non, c'est dégueulasse, Nagui.
Il y a les... Bah non, je dis rien, tiens. Non, ça, j'ai déjà fait.
Morgane, mais... Vivaldi?
Non.
Beethoven.
Quel rapport entre Vivaldi et Les Intranquilles?
Les quatre...
Bah, c'est de la musique de chambre, quoi.
Daniel.
Laurent Voulzy?
Non.
Mozart, Dash Tranquilleform.
Dash Tranquilleform.
Et mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré.
Oh non, les Morgane, les inconnus.
C'est Auteuil Neuilly Passy.
Et pourquoi?
Les inconnus.
Les intranquilles, les uns.
On l'a perdu là.
Les uns. Moi.
Daniel, il faut suivre maintenant.
Il y a un. Inconnu, insu, intranquille.
Il est pas facile, hein.
Ah,
il est là. On ratisse là.
Ok, d'accord.
Salut. Et non, mais attendez.
Bien.
Je vous demande pas de trouver le thème du blind test. Je vous demande de reconnaître des morceaux.
Mais Nagui, on te suit.
Ah oui. Oui.
Florence, non, Maître Gims.
Oui, Florence.
Putain, j'ai Louane et Maître Gims, mais j'ai honte.
Bah pourquoi?
Bah non.
Tu connais le titre ou pas?
Non, il faut pas que
je le laisse tranquille. C'est tranquille.
Laissez-moi tranquille.
Putain, si mon père m'entendait, quoi. Il peut pas, il est mort. C'est pas vrai, il est pas mort. C'est pas vrai, il est pas mort. Je dis ça pour faire booster un peu ma carrière.
De là-haut, il te regarde.
Il arrête pas de mettre sur Facebook, arrête de dire que je suis mort.
Oui, au 7e étage. Il est juste...
Profite surtout.
Il a la paix.
On en est où? Alors, Leïla, t'en as trouvé un, c'est ça? Daniel, 2. Florence, 1. Et toi, rien.
Florence, 2.
Guillaume, c'est Louane.
J'ai eu Louane aussi.
Ah oui,
c'est vrai. N'oblige pas à le redire, c'est pas sympa.
Qui chante ça?
La personne. Oh, c'est mignon, merci Nagui.
C'est pas Enodi?
Non.
Je sais la peine, je sais les pleurs et les pensées.
Leïla?
Ouais.
Les innocents?
Non.
Non, c'est un truc avec tranquille.
C'est un truc avec tranquille, ouais.
Attends, cette voix, attends.
Je crois que c'est la première fois que je l'ai dans un blind test. Sens,
je sais le manque.
C'est un chanteur?
Leïla,
parce que le miroir?
Exactement, oh, joli.
J'allais dire comédie musicale, ouais.
Emmanuel Moir,
c'est mon essentiel, Leïla.
attention, 2 points pour Leïla, 2 pour Florence, 2 pour Daniel. Tout se joue sur ce dernier titre. Ça rapporte 3 points à la victoire.
Non, j'ai même pas entendu.
Tranquillement Fatal Bazooka, tranquillement Daniel Morin.
Fatal Daniel
Morin.
Merci
Leïla.
Bravo! La bande originale avec Nagui.
Je l'ai dit avant que vous arriviez, je vous le redis dans le blanc des yeux, c'est un bonheur de vous recevoir, Leïla. Tellement j'aime
malgré
votre
le film.
Tellement j'aime votre jeu, celui avec Damien Bonnat et la situation qui est pourtant des plus compliquées dans cette histoire d'amour qui est déchirante parce que il y a cette maladie, il n'y a pas d'autre terme, que Damien Bonnat incarne dans le film. On peut appeler ça bipolaire, on peut appeler ça
maniaco-dépressif,
c'est ça. C'est-à-dire qu'il passe d'une extrême à l'autre, de l'hyperactivité, de l'excitation et du bonheur à la dépression et à la déprime la plus totale. Et elle est déchirée. Votre personnage est déchiré. Elle s'appelle Leïla d'ailleurs dans le film. Lui, il s'appelle Damien. Ouais, on va faire plus simple, hein, comme ça. Mais elle est.
Ce qui donne
ils
encore
ont aucune confiance en vous, les gars. Zéro confiance. Leïla, ok, non, on regarde.
Ce qui donne une dimension encore plus réaliste, en fait.
Plus, ça a été fait vraiment. On a essayé de pas en faire un sort, mais c'était aussi pour Gabriel. Oui. Qui joue notre fils, ça allait être moins compliqué. Et puis, finalement, les scènes pouvaient continuer. Vu qu'on s'appelait Leïla et Damien dans la vie, si on avait envie d'improviser et de... mais j'ai pas fait vraiment un sort de ça, j'ai réussi à...
Et vous avez raison de citer l'enfant, parce que l'enfant est tiraillé, il joue extrêmement bien, et il a 7-8 ans,
exactement.
Et il est tiraillé entre l'enthousiasme de son papa et les jeux un peu dingues, en disant mais c'est génial, un papa qui plonge tout habillé dans l'eau, qui fait des délires, c'est trop rigolo, puis ça bascule, quoi, il commence à flipper lui aussi, pour sa sécurité, finalement, pour l'amour qu'il y a entre sa maman et son papa, les intranquilles. Alors, comment Joachim Lafosse vous a, entre guillemets, pitché, vendu le film en,
c'est un sujet perso.
Oui, c'est ça. C'est,
ouais, exactement. J'imagine, ouais. Je crois que c'est le film le plus personnel qu'il ait fait. Il parle de ses parents, mais surtout, il m'a fait lire le scénario. C'était pas du tout une proposition. Et en fait, c'était... Il attendait un retour de ma part sur le scénario, mais j'ai été vraiment honnête. Pour moi, c'était avant tout une histoire d'amour, et c'était très important. Je lui ai dit, c'est faut pas qu'on perde ça de vue, parce que c'est moi j'aimais l'idée qu'on voit un couple se battre. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est rock'n'roll, c'est d'essayer de rester. Évidemment que le couple, c'est...
Ce qui est rock'n'roll, c'est pas de divorcer, c'est de rester ensemble, c'est ça?
Aujourd'hui, oui.
Il y a un moment, faut...
elle le dit, d'ailleurs,
Je vais pas tenir.
Si tu retournes à l'hôpital, je suis pas sûr que tu seras là quand tu reviens.
Exactement. Ouais. Et c'est vrai que... Mais c'est aussi sur la difficulté de dans un couple de vivre une telle épreuve. Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est un film sur les limites de l'engagement, en fait. Et c'est propre à chacun. C'est pour ça que c'est intéressant, là, en ce moment. On fait beaucoup de tournées province où on rencontre le public. Et c'est hallucinant comme chaque personne, pardon.
Je vous en prie.
Répondez si vous voulez.
Jamais.
Chaque personne reçoit le film différemment.
Exactement. Ouais. C'est vraiment propre à chacun. Et puis surtout, la bipolarité, pardon, n'est qu'un prétexte pour parler de ce couple.
Oui, parce que ça pourrait être une maladie qui... En fait, l'écho de cette maladie, non seulement a des conséquences sur la personne malade, mais a des conséquences sur la famille. Et la souffrance, elle est aussi du côté des bien portants, mais qui souffrent de ce que l'autre vit et de ce que l'autre leur fait vivre. Il faut dire qu'il est artiste.
Oui.
Les deux, entre guillemets,
elle refait des meubles. Elle restaure, donc elle répare. Elle a l'impression de réparer son mari aussi. Puis je pense qu'ils se sont donné une place. C'est ça aussi qui est très difficile dans un couple, c'est quand on se donne des places. Elle a la place de l'infirmière, lui du malade.
Ouais.
Et je pense que c'est des places qu'il ne supporte plus. Et puis ce que j'ai vraiment aussi aimé dans ce film, c'est que souvent les films exigeants, c'est très clivant. Et là, je trouve que c'est populaire. Enfin, que c'est pas, c'est ça, ça.
Parce que
ça
c'est
parle
une histoire
à
d'amour.
Tous.
Ouais, parce que c'est simplement une histoire d'amour.
Et ça, j'ai aimé aussi la manière dont il, enfin, puis le regard nuancé qu'il avait sur le couple.
Florence.
Moi, je suis très très touchée parce que voilà, je vais vous faire une confidence personnelle. Moi, j'ai été atteinte d'une maladie mentale assez sévère qui m'a coûté mon couple justement.
D'accord.
Et j'en suis sortie, c'était en 2017. Et je trouve que c'est très bien justement de faire des films où on voit la maladie mentale dans la vie quotidienne.
Oui.
Parce que souvent, la maladie mentale est décrite comme très effrayante et poussée à son extrême. On parle de maladie mentale qu'une fois qu'on a atteint une violence qui est énorme, alors que voilà, moi, je suis passée par là. Et c'est un tabou qui est encore
tellement
immense et qu'il faut maintenant pouvoir dire aux gens bah, on est beaucoup à pas aller bien et on peut vraiment aller mieux et c'est important et je trouve ça hyper touchant parce que voilà, moi j'ai été face à ça, moi j'ai été le pilier de ce couple et puis quand moi je suis tombée malade bah, il est parti et je trouve que dans votre film c'est très donc j'irai pas le voir avant 15 ans avant d'avoir tout à fait fini ma thérapie mais ouais merci de
merci
présenter ça comme ça
parce c'est très touchant ce que je...
Oui parce que finalement le plus beau compliment, c'est d'être proche de cette réalité.
Ouais, je pense qu'il faut dire aux gens qui ont une maladie mentale qu'ils ne sont pas seuls, surtout s'ils sont ce qu'ils
offrent. C'est tellement intelligent ce que vous dites, c'est tellement vrai, on ne voit jamais
fois.
Ça dans...
Ouais, ouais, c'est...
Non, parce que moi, à la base, on m'a engagé pour médecin.
Ah, d'accord, ok. D'accord. Bah, là, en tout cas, ça n'a pas servi. Non, et non, mais je trouve ça hyper intelligent parce qu'on voit le quotidien, en fait.
Ouais, tout à fait.
Et c'est le quotidien qui les plonge dans ce vertige qui est... Ouais. C'est difficile, ça va être de d'amener son enfant à l'école.
Ouais, des choses triviales, hein. Voilà. Moi j'étais plus capable de manger, de laver seule, de prendre ma voiture. D'un coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est dans une position vraiment
infantilisée. Et puis il y a le regard des autres aussi. Il y a les moments de gêne. Je pense à la boulangerie aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de s'excuser sur.
Il est en pleine bouffée délirante.
Exactement.
Elle essaie de réparer. Ouais.
Et il récupère les paniers d'osier, des chouquettes ou des croissants ou des viennoiseries. Et il y a le moment de gêne avec. Je vais repasser. Je vais gérer. Je tiens le truc et elle est costaud, elle est solide quoi. C'est-à-dire qu'elle tient à bout de bras toute la famille et elle ne lâche rien parce qu'elle a toujours l'espoir que cet amour tienne.
Elle a toujours l'espoir et puis je pense que c'est un couple qui s'aime vraiment. La seule chose, je pense qu'elle se dit, c'est que aujourd'hui il y a un enfant et que les répercussions de ses choix.
Elle a peur pour la santé
exactement,
de son enfant.
Exactement. Donc, vont impliquer l'enfant, forcément.
Et en même temps, on n'est pas dans un jugement, en fait. Dans ce film-là, moi, le personnage de Damien Bonnard, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, pour lequel j'ai eu beaucoup de tendresse et d'empathie.
Ouais.
Et votre personnage, qui est celui qui tient en effet la baraque, aussi, on a énormément d'empathie pour vous, parce qu'on voit bien qu'elle se démène comme elle peut. Mais elle peut être injuste aussi à certains moments. Et en fait, c'est intéressant que l'injustice ne vienne pas du personnage de Damien Bonnard, puisque
sans l'excuser
de tout, parce qu'il est malade,
il
est, en tout cas, on sent que lui aussi, il a envie de quitter cet état et que elle s'inquiète à juste titre, mais que à un moment, nos travers, quels qu'ils soient, ils rejaillissent aussi.
C'est exactement ça. C'est pour ça que ce que j'ai vraiment aimé quand j'ai lu le scénario de Joachim La Fosse, c'est que ce regard nuancé qu'il a sur le couple, je trouve que c'est pas du tout didactique. Moi, j'ai un peu de mal avec les films où on nous
dit quoi penser.
On nous dit quoi penser. On peut nous faire culpabiliser aussi. Et là, moi, j'aime l'idée qu'on puisse se dire quelquefois, mais pourquoi elle reste? Mais pourquoi elle prend cette décision? Mais pourquoi? C'est.
Ah, mais moi, je suis sûr qu'il y en a plein qui regardent, qui s'identifient aussi à vous en disant, moi, je ne pourrais pas supporter ça. Moi, je pourrais pas rester ou qui admire le fait que vous restiez. Mais
c'est plus complexe
et que chaque couple fait ce qu'il peut.
Exactement.
En fait.
C'est ça.
Et c'est vraiment propre à chacun.
Et c'est pour ça que je tenais aussi à dire que ça peut concerner la maladie d'Alzheimer, ça peut concerner d'autres maladies. Même des AVC avec des gens qui sont physiquement réduits, qui se retrouvent sur un fauteuil. Et là aussi, comment l'amour tient face à ce qui n'est pas gérable, ce qui n'est pas déjà de la faute.
L'amour et puis il y a même des moments où on rit.
Ah oui, à fond.
Dans nos disputes.
J'ai même senti des impros, non? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où un rire est venu, où il dit je te fais rire? Non, c'était joli.
Non, c'était le quand on lui. Avec le médicament.
Ouais.
Non, 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 non.
Oui, tu m'as même parlé, tu m'as parlé d'un relâchement dans le jeu.
La scène avec le petit garçon,
exactement.
Qui est une scène fabuleuse, parce que lui, il est témoin de tout ça, et il dit sans dire, en fait, il observe, il a de la tendresse pour, il a un conflit de loyauté, parce que son père a beau être plongé dans cette maladie,
ça
il l'aime, et il veut
l'aime.
Le défendre.
Exactement.
Et quand il reprend les propos de son père, qui est parti dans une bouffée délirante aussi, sur une table, au milieu d'un salon, qui ne devrait pas être à cet endroit-là, il amène tout d'un coup,
c'est drôle,
il ramène toute la joie et l'amour de son couple.
Oui, et puis c'est la c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est que c'est la vérité, les coups durs qu'on peut avoir, si on n'a pas un peu d'autodérision aussi. C'est moi, je sais que moi l'humour ça a été mon médicament depuis que je suis petite. Tous les coups durs qu'on a vécu, l'humour c'était quelque chose qui nous a sauvés.
Ouais.
Mais moi, c'est là-dessus que j'ai trouvé assez subtil, parce que au-delà de la maladie, moi, en regardant le film, j'ai oublié l'histoire de la maladie à un moment. Ça montre juste aussi la difficulté d'un couple et d'une vie de famille.
À tenir.
Ouais. Et que chacun fait ce qu'il peut. Et après, oui, c'est vrai que ça revient dans l'histoire qu'il est malade.
Ça pourrait être une situation, de chômage, de dépression qui passe. Non, mais c'est ça. Et l'amour est plus fort que tout. Et l'amour paternel aussi, parce que finalement, il ne dort jamais. Il n'y a que dans le lit de son fils où il réussit à dormir et à s'endormir. On va continuer d'en parler. Ça s'appelle Les Intranquilles. C'est au cinéma demain avec Leïla Bekti, qui est notre invitée, avec Gabriel Merschama, qui est formidable, ce bon main de 7-8 ans, Damien Bonnard, Patrick Descamps, Jules Varigo, Alexandre Gavras, Joël Delso, Dany Iflan-Stettner, et Larissa Faber, ce beau monde donc dirigé par Joachim Lafosse. On est ravis d'avoir Leïla Bekti avec nous, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voici Morgane Cadignan. Est-ce que Morgane ne vous aime toujours pas?
Ah d'accord.
Non, mais pour la première fois, Leïla Bekti, pour la première fois, je vous aime pas, mais putain, je suis tout de même un peu émue ce matin, pardon, mais toutes les Leïla de ma vie en un studio réunis, mes âmes sœurs, mes égéries, parfois mes meilleurs ennemis. Alors oui, un début de chronique un peu particulier pour dire quoi, Nagui? Pour dire quoi? Mais pour dire que, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de mardis matins qu'on démarre sans chanter les L5? Moi, je trouve ça absolument dramatique. C'est et c'est bien de s'inquiéter de la disparition des baleines et des pandas, mais putain, la disparition des Watford et des L5, personne ne s'inquiète, donc allô le GIEC, il serait temps de se mettre sur les rapports qui intéressent vraiment les Français en fait. Leïla, vous venez aujourd'hui nous parler des Intranquilles, film donc de Joachim Lafosse dans lequel vous êtes mariée à Damien Bonnard, et en lisant votre biographie, je me suis dit, quand on a été mariée à Édouard Baird, comme c'était le cas dans La lutte des classes, et qu'on est mariée cette fois-ci à Damien Bonnard, est-ce qu'on n'en laisse pas un petit peu aux autres à un moment donné? Parce que regardez autour de vous, nous, ça fait quelques mois qu'on roule sur les fins de série et on n'est même pas en octobre, donc faites un effort. Leïla, moi je vous ai connue, je vous ai découvert dans Tout ce qui brille, et c'était surtout vous qui brilliez dedans avec Géraldine Nakache, que je vais d'ailleurs devoir dégager de votre vie pour prendre sa place de meilleure amie. Ça va pas être hyper évident. Ce film-là, je l'ai vu à une époque où Tout ce qui brillait chez moi, c'était ma zone T, et vous avez donné envie à des tonnes de jeunes filles de faire tout ce que vous faisiez dans le film. Limite, j'ai eu envie de vivre à Puto, quoi. Donc c'est pour dire. Quel exploit, mais ce film, vous avez réussi l'exploit de rendre tendance un son de Véronique Sanson. Je m'en rappelle, je suis rentrée chez moi, je me souviens de mon père, je lui ai fait écouter, je lui ai dit, écoute, c'est trop bien, c'est Leïla. Il m'a dit, alors non, c'est pas Leïla, c'est Véronique. Je lui ai dit, mais calme-toi, Éric Zemmour, en fait. Elle s'appelle Leïla et jamais on l'appellera Véronique. Après, j'ai compris le quiproquo, mais la baffe était partie. Voilà. Et surtout, les amis, tout ce qui brille, ça m'a donné envie de partir des taxis sans payer, le Joby Joba. On l'a évidemment tous tenté au moins une fois. Alors, si, pour ceux qui nous écoutent, si je peux me permettre un conseil tiré de mon expérience personnelle, partir d'un taxi sans payer, ça marche quand on n'oublie pas son sac à main à l'intérieur. Sinon, le monsieur vous retrouve et il est ronchon. Après, il a été sympa, il me l'a rendu en même temps. Qu'est-ce qu'il allait foutre d'un faux Gucci rempli de vomi? Comme tant! Bah ouais, mais comme tant d'autres anecdotes, j'aimerais tellement que celle-ci soit fausse. Donc, Leïla, pour finir, dans le film, vous êtes en couple avec Damien Bonnard qui joue un peintre. Et il est aussi peintre dans la vie, j'ai découvert ça. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ait pas pu être là ce matin. J'avais envie de lui proposer de me peindre en échange de cette chronique qu'il n'a pas demandé. En plus, au Beaux-Arts, il était plutôt dans l'abstrait. Donc, franchement, on se faisait ça démaquillé en fin de semaine. C'était nickel. Dommage pour lui. Il sait pas ce qu'il rate. Ou alors, il sait. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais bon, je m'en fous. Moi, j'ai ma nouvelle meilleure amie. N'est-ce pas, Leïla? On sait pas de laquelle je parle. Battez-vous.
Il y a intérêt que ça soit à moi, je te le jure.
Attends, tu as des L5 en plus.
Ouais, je fais des petites demandes à la régie.
J'adore.
Toutes les femmes de ta vie.
Ah, ça fait du bien. Non, parce qu'on peut être intranquille, mais...
T'aurais pu mettre Véro quand même. Voir la version réellement chantée par.
On l'a mise il n'y a pas longtemps.
Pardon ?
On l'avait mise il n'y a pas longtemps.
Et alors ? On n'a pas le droit de repasser
sur notre ton.
Retour donc. Ah, tiens, la bande-son aussi de ce film.
Cette scène dans la voiture est géniale.
Une vente vorace due au fond d'un couloir.
Non, et puis, je sais pas, le choix du titre, la voix de Lavillé qui va tellement bien au physique de Damien Bonnard, la situation, les idées noires, le texte.
Parce que Catherine Ringer-Raymond.
Et ouais.
Et elle.
Quand tu es dans mes bras.
Là, c'est Nicoletta.
C'est Nicoletta, ouais, ouais. Alors que la version, c'était ouais, la reprise avec Catherine
Ringer. Ce qui est assez fou pour la petite anecdote, c'est que ce titre, c'était pas le titre à la base qui était écrit dans le scénario. Et ça c'était super avec Joachim parce qu'il nous a laissé une telle liberté, c'est-à-dire qu'il nous disait vous allez, ce sont vos personnages qui choisiront la fin de ce film. Ouais. On ne sait pas ce qui se passera, on verra. Et pareil pour le titre, on se posait la question, on se disait est-ce que c'est bien ce titre ? Et puis on a commencé un soir à parler et moi j'étais en tournage donc au Luxembourg et j'avais amené ma belle-sœur avec moi pour que elle m'aide pour les enfants tout ça et c'est ma belle-sœur qui a trouvé le titre. On parlait tous ensemble et elle a dit mais idée noire de Bernard Lavillier, c'est peut-être bien. Et puis on a écouté et puis Joachim m'a dit mais c'est génial ça parle tellement de ces personnages et de
totalement.
Et ça c'est chouette quoi de chercher pendant le tournage quoi.
Sublime chanson d'amour également dans la BO du film.
Mes amours. Ah. La vie n'est qu'une chimère si l'amour n'y vient pas faire sa ronde d'oiseaux géants.
Et c'est vrai que la peinture a une place très importante puisque oui. Damien Bonnard sorti des Misérables, je rappelle pour ceux qui cherchent à mettre
d'Alain Guiraudy,
grand acteur, Reste
vertical.
Il est en liberté, ambidextre dans sa manière de dessiner quand il se met avec sa toile. Il part de la main droite comme ça, il ne lâche pas le trait, il repart avec la main
c'est
gauche.
C'est vraiment beau ce qu'il a fait. Il a appris. Enfin, c'était.
Mais ça veut dire que les toiles qui sont dans le film sont celles qu'il a réellement.
Alors, c'est Pete, le peintre référent du film, qui a prêté ses toiles. Il les commençait et Damien les finissait. Mais même
Pete il a colorié quoi en fait. Juste mec qui colorie quoi.
Il fallait pas dépasser les lignes.
Ouais, c'est ça. Il avait même des numéros. 1 c'était le rouge, 2 c'était le bleu.
Non, et pour le coup c'est hallucinant. D'ailleurs je demande officiellement à Damien de me faire une toile. Que j'arrête pas de lui demander. C'est pas une vanne Damien. Je te le demande officiellement.
En même temps il est pas venu, c'est un indice.
Tu penses
jouer le rôle que vous jouez aux côtés de Damien, c'est-à-dire incarner finalement la maman et le papa. Du réalisateur, ça doit être totalement bouleversant parce que au-delà de la direction d'acteur, c'est l'intimité de celui qui est face à vous.
Bah, je pense qu'on a, c'est vraiment ce qui s'est passé sur ce tournage. Déjà, c'était en plein Covid, donc on était comme confinés. Donc on était 80% du film se passe dans la maison. Donc on a eu la chance d'avoir 10 jours de répète avant le film, ce qui n'arrive absolument jamais. Donc ça, c'était parce qu'on cherchait constamment et en cherchant, on pensait forcément à notre entourage, à des proches qui peuvent, et le couple, on a, qu'on soit célibataire ou pas, on a tous peut-être des avis des fois, des avis tranchés sur des choses.
Ouais.
Mais moi, je le dis souvent, de tourner des films. Enfin, jouer d'autres vies que la mienne me rend plus indulgente, en fait. Mmh. Sur les hommes, sur la vie.
Est-ce que vous avez demandé à Joachim à rencontrer ses parents? Parce qu'ils ont vu, le film. Il l'a dit dans une interview, d'ailleurs.
Non, j'ai pas demandé à rencontrer ses parents. Je pense que j'aurais jamais osé. Et je pense qu'il y a des limites à, je sais pas, j'aurais pas osé pour le cinéma demander plein de choses comme ça. Enfin, je sais pas, il y a des trucs. Alors après, c'est propre à chacun, mais je crois que ça aurait été trop intime. Et puis j'avais le regard de mon metteur en scène, en qui j'avais totalement confiance.
Mais donc vous avez c'est la vision du fils que vous interprétez, peut-être pas forcément ce que la mère a vécu.
Oui, mais ce qui a été, c'est là où j'ai trouvé Joachim très intelligent, c'est que quand le scénario a été une belle promesse, mais on a vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas écrites et qu'on a cherché tous les trois pendant les répètes, et il n'était pas du tout attaché à il voulait vraiment raconter cette histoire au plus près, et puis ça reste, il faut que ce soit aussi du cinéma,
Et que, oui, et puis ça reste une histoire d'amour, encore une fois, qui pourrait se passer en n'importe quel contexte.
Exactement.
Il
n'y
a pas que la bipolarité, ça peut être une maladie, ça peut être la drogue, l'alcool, ça peut être une déchéance sociale, n'importe quoi.
Sur
mais
l'engagement
c'est comment
de,
l'amour
du couple,
tient, malgré le combat et l'adversité.
Voilà. Et Joachim Lafosse, c'est aussi un réalisateur qui scrute le couple depuis longtemps, hein, l'économie du couple avec Cédric Kahn et Bérénice Bejo, qui était un super beau film, où là aussi on est plongé dans cette histoire de séparation, de guerre à base de finances, comme c'est souvent le cas quand un couple se sépare. Et il montrait là encore une vision hyper réaliste de ce que ça pouvait être au quotidien, en fait. Et il est très très fort pour ça.
Ouais, les névroses, c'est souvent des films où les personnages sont vraiment névrosés, mais toujours nuancés.
Ouais, ouais.
C'est comme pour le petit garçon. Moi, j'ai un peu de mal avec les enfants au cinéma. Parce qu'on leur donne
même
beaucoup
dans
de
votre vie privée, quoi.
Ou dans ma vie privée, je n'aime pas mes enfants.
Bah, évidemment.
Mais
on n'est pas obligé. Hein.
Mais oui, on n'est pas.
C'est pas parce qu'on sait que
c'est écrit. Ouais.
Non, mais on leur donne souvent des dialogues d'adultes.
C'est vrai.
Ouais.
Et du coup, et cet enfant-là, Gabriel, il a été extraordinaire. Déjà, il a une écoute incroyable. C'est un grand acteur, mais il le sait pas, et ça c'est génial, parce qu'à 8 ans tu dois pas savoir que t'es un grand acteur, et que quand on finissait les prises, il demandait où étaient les pains au chocolat, et ça, moi, c'est parce que je me souviens, j'avais tourné avec un enfant qui après les prises demandait une verveine, et je lui disais non, t'as pas le droit de demander une verveine, tu demandes un coca ou du jus de fruits.
Elle l'a traumatisé.
Même moi, je bois pas de verveine.
Donc à 15h, quoi.
Trop du cul.
Non, mais ça me faisait peur.
Mais s'il en veut, laisse-le.
Je lui donnais. Hein.
Est-ce que tu vas,
je mettais du coca dedans. Moi,
est-ce que tu veux empêcher Daniel Morin à son âge de boire du coca? Non.
Non, tu prends de la verveine.
Chacun dans sa case.
Ça s'appelle Les Intranquilles et c'est au cinéma demain. Voici Florence Mendez. On reste calme.
Avant de commencer, un avertissement, je risque de dire des grossièretés, donc éloignez vos enfants de la radio, sauf si évidemment vous êtes en voiture. Bon. Hier soir, j'ai eu une relation sexuelle. Voilà.
Oh. Bonne nouvelle.
Pour moi, ça s'est plutôt bien passé, pour le mec aussi, je crois. Quand je lui ai demandé si ça lui avait plu, il m'a dit « bah tu pourrais passer pro ». Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu de rapport. Voilà. En vrai, hier soir, j'ai lu le dernier essai féministe de Mona Chollet. La seule façon dont j'envisage désormais de me servir d'une bite, c'est comme marque-page. Réinventer l'amour. Ouais. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, c'est le nom du bouquin. Je vois déjà passer les injures, hein, aigris, frustrés ou mal baisés. Tant de mots alors qu'on peut juste dire en couple. Oui, bah voilà, je suis un peu énervée. En m'endormant hier soir, je me suis rendu compte que socialement, on est quand même très proche des moustiques. Le plus souvent, chez eux aussi, c'est la femelle qui suce et qui se fait taper. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je raconte? À mon avis, j'ai fait une overdose de sexisme et comme j'ai pas fini ma mission sur Terre, je me retrouve bloquée dans une blague de texte. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, parce que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a investi dans des casques de réalité virtuelle afin de permettre aux détenus auteurs de violences conjugales de se mettre à la place de leurs victimes et de développer de l'empathie pour celles-ci, limitant ainsi les risques de récidive. Cela se base sur l'effet Proteus, soit la façon dont l'on se représente sur Internet qui influence nos comportements et ceux des autres utilisateurs. Si par exemple vous jouez à un jeu vidéo en ligne, vous remarquerez que vos attitudes ne seront pas les mêmes si vous avez comme personnage une elfe sexy ou un gros barbare. Alors non, le dispositif n'existe pas pour les violences sexuelles. En même temps, on sait que les violeurs n'ont aucun mal à se réinsérer.
Non.
Alors, cet effet Proteus se base sur d'autres études, elles bien antérieures à l'apparition d'Internet dans nos vies. Mais le principe reste le même. La manière dont l'on se perçoit influence notre attitude. Au cours des diverses expériences, l'on a pu constater que des individus vêtus d'uniformes noirs présentaient plus de comportements agressifs que ceux vêtus d'uniformes blancs. Dans le même ordre d'idées, pour faire écho à la célèbre expérience de Milgram, les personnes vêtues d'un costume du Ku Klux Klan envoyaient des décharges électriques plus intenses que celles vêtues d'un costume d'infirmier. Mais attendez un peu. Ça voudrait dire que la perception que les hommes ont d'eux-mêmes influencerait leur comportement envers les femmes? Oh là là, si seulement on avait une solution à ça. Mais oui, Maryse, pour la modique somme de 0€, nous vous proposons d'acquérir le féminisme. Le féminisme qui, comme le fait si bien la susmentionnée Mona Chollet dans son bouquin, tâche de déconstruire les représentations néfastes des hommes à l'égard des femmes, mais aussi d'eux-mêmes. Moi homme, moi fort, moi violent, moi pas tendresse, sinon moi pédé, ça commence à bien faire. Détendez-vous, putain, je ne peux que vous recommander un automassage de l'anus. Nous sommes d'ores et déjà à 80 féminicides cette année. 80 femmes mortes des mains de leurs compagnons. Oui, pardon, c'est censé être une chronique drôle. Blague, lol, tire sur mon doigt. Mais putain, sachant que selon une enquête du Monde, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite, que 30% des auteurs de féminicides ont déjà été condamnés pour violence, et que dans 29 putain de pourcents des cas, ces plaintes ne sont jamais communiquées au procureur de la République, il y a de quoi être énervé. Lutter contre la récidive, Eric, c'est bien, voilà, former les policiers et les magistrats à l'empathie, la déconstruction et investir pour une justice plus efficace, c'est mieux. Et j'entends déjà les not all men, il y a aussi des hommes battus, ce à quoi j'ai envie de répondre, ta gueule. Oui, messieurs, les hommes battus existent, mais on est en septembre. Et vous nous avez déjà mis 80-0, dont acte.
Merci Florence Mendès. Pour parler de la violence dans le couple, justement, elle est psychologique dans, dans le film. Elle n'est jamais physique. Il y a aussi cette forme d'amour, parce qu'on parle beaucoup de cette femme qui est courageuse, qui se bat pour son amour, qui est qui tient à bout de bras, mais il l'aime
oui,
aussi.
Ça fait pas de doute, ouais.
Il l'aime. Après, c'est une violence quand même, et c'est.
Elle est psychologique, cette violence.
Bien
sûr,
elle
l'aime. Oui, mais.
Oui,
c'est ça. Oui, mais il n'y peut rien. Il
bien sûr,
rien. Il
mais...
subit. Il est victime, mais il se rend pas compte d'ailleurs. Même le propre père, son propre père essaye de l'aider. Il ne veut rien entendre.
Il ne veut rien entendre, et en même temps, c'est ce que j'ai. Ce qu'il y a dans ce film, c'est que c'est. On va dire que la première partie du point de vue de la folie de Damien, et la deuxième, c'est comme si mon personnage était contaminé par
ouais,
sa folie.
Ça,
elle
ouais.
veut pas. Pour elle, il ne prendra jamais ses médicaments. Mmh. Pour elle, donc ils sont rentrés dans des espèces de d'habitudes, de comportements et ils anticipent vachement ce qui c'est pour ça que c'est pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment aussi un film sur le couple.
Ouais, ils sont chacun enfermés dans ce rôle.
Voilà.
Et je pense que elle réside aussi dans le fait qu'il refuse de soigner, parce que c'est pas de sa faute s'il est malade, mais c'est de sa responsabilité de se soigner.
Exactement. Et en même temps, c'est exactement ça. Et surtout, ça parle aussi de ce sujet qui est, il le dit d'ailleurs, mais moi, le peindre, c'est ma vie. Moi, quand je prends ces médicaments, je ne peins plus comme d'habitude.
Ouais. Ah bah, c'est-à-dire que d'un coup,
c'est tout un truc où tu te dis.
Il s'effondre, il devient
voilà,
tout mou.
Tu te dis que, oui, mais ouais. Ta famille, et en même temps, s'il peint plus, il est plus. Enfin, c'est horrible.
C'est
parce que ça.
Et le marchand d'art, enfin, le responsable de la galerie, accusé de le pousser à retravailler, donc à ne pas prendre ses médicaments pour créer des toiles et de le faire tomber à nouveau dans cette spirale.
Et c'est aussi une prophétie autoréalisatrice. Plus vous vous dites, je sais pas peindre si j'ai mes médocs, si j'ai mes médocs, eh bien évidemment.
Bien sûr. En plus, c'est des métiers comme ça où tu. Enfin, les métiers artistiques,
Il faut arrêter de croire qu'on va se nourrir du malheur, quoi. Je pense que c'est vraiment important.
Ouais. On parle du peintre, justement,
ouais,
des toiles qui sont dans le film.
Ramdonk.
C'est extraordinaire.
Et alors, justement, on va pouvoir voir ces toiles à l'atelier Intranquille.
C'est
celle
de Damien aussi.
Et celle de Damien, absolument, à partir du 8 octobre jusqu'au 30 octobre.
C'est là qu'il faut aller pour aborder.
Voilà.
Ouais, mais je vais la voler.
Ouais. J'ai avec vous,
sûr, hein.
Ouais, sans problème.
Ah. C'est la scène.
Là aussi, ça fait partie, ouais. De la BO du film Les Intranquilles.
C'est Antoine.
Bodson.
Bodson. C'est magnifique.
On dit Bodson ou Bodson ?
On va dire Bodson,
ouais,
ça fait Rick.
Alors Tony Bodson.
Okay. Il est belge ?
Non, mais c'est. Il est belge, ouais.
Et Bodson.
Tu dis Bodson ? Allez,
tant pis.
Le peintre est belge.
Oui, non, il est pas belge, Antoine.
La musique.
Je trouve ça magnifique, la musique du film.
Je vous confirme. Et puis, moi, j'aime bien aussi celle que vous avez dans la bande originale de votre vie, Leïla Bekti. Vous écoutiez dans les années 90, Wet, Wet, Wet. Oh.
J'ai voulu que des chansons d'amour.
Que nous arrive-t-il sur notre lieu de travail?
C'est la BO d'un film, ça, non?
Ouais, c'était Love Actually. C'était
Love Actually,
ouais. Non?
Comédie romantique.
Britannique.
Ouais. On me dit les deux, c'était dans les deux en fait.
Ah. Et nous on va parler de la Strada. Oui. Au milieu des années 90, Leïla, c'est une découverte dont vous parlez souvent.
Ouais.
Dans les interviews, vous aviez quoi, 8 ans même pas ?
Oui, 8 ans exactement. Et puis il y a une sortie d'école au cinéma avec ma classe et on part voir la Strada. C'est là où je remercie les profs de nous faire découvrir ce genre de film à cet âge-là. Et, Et voilà, et je sais pas dire, je sais pas ce que c'est un grand acteur, un grand metteur en scène ou une grande actrice. Donc quand je rentre à la maison, ma mère est dans la cuisine et elle me dit alors comment c'était ? J'ai dit c'était super, la dame elle parlait avec ses yeux. Bon, bah, j'ai compris plus tard que Giulietta Masina c'était une très 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 grande actrice. Et c'est vrai que ce film et cette femme, elle... D'ailleurs Géraldine elle m'a offert pour mon anniversaire, une fois elle m'avait offert un très beau cadre de Giulietta Masina qui est chez moi avec ses grands yeux comme ouais. Ça
Et ouais, parler avec ses yeux, pour vous, c'est le comble de la bonne actrice, c'est-à-dire c'est vous
évertuer,
en tout cas à arriver à atteindre ce...
Ouais, pour moi, c'est
le cas. Ce qui est le cas d'ailleurs, c'est de ne rien dire et laisser passer une émotion.
Moi, ça, j'adore, c'est vrai que c'est... Et puis après, en tout cas, de ne pas paraphraser ce que... Si je dis que je suis triste en pleurant, c'est dommage.
Ouais.
C'est...
C'est un peu comme dire qui vous imitez quand vous êtes imitateur. Quoi.
Pardon ?
C'est un peu comme dire qui vous imitez quand vous êtes
imitateur.
Exactement,
moi ça je le fais par exemple. Je vais vous imiter Jacques Chirac.
Je suis
très mauvaise imitatrice. Vous venez de me...
Oui mais paradoxalement...
Je viens de m'en rendre compte.
Il y a des acteurs comme Louis de Funès qui mimaient le mot qu'il disait. C'était dans l'humour. Ça.
Ouais,
et l'avion arrive et il disait...
Ouais, et ça c'est du génie parce que c'est...
Il
incarnait, ouais. Et puis j'avais l'impression que c'était un avion surtout. Ouais. C'est ça qui était fou. Non, mais c'est qu'il était.
Mais prenez pas ses médocs non plus, lui. Il les prenait pas. Hein.
On parlait tout à l'heure de l'humour, Leïla, l'humour qui sauve de plein de situations. Oui. Vous avez suivi un cursus d'art-thérapie.
Oui.
Et vous avez travaillé au contact de personnes handicapées. Oui. Et c'était les aider à aussi décloisonner plein de choses via l'art.
Exactement.
Comment s'est passée cette expérience ?
Ça s'est pas très très bien passé parce que j'étais trop jeune et pour moi juste le fait de vouloir aider j'allais réussir à aider et en fait la meilleure amie de mon frère était directrice de ce centre d'handicapés et au bout de deux jours elle me voyait faire des allers-retours aux toilettes et en fait j'allais pleurer parce que je me disais mais
je supporte pas les handicapés en fait.
non mais je me disais la veille j'ai pleuré parce que je rentrais pas dans mon jean et eux ils sont ils vivent ça, enfin je voyais les parents qui venaient, enfin c'était et en fait j'étais dans une culpabilité mais telle que j'arrivais plus et puis elle m'a dit qu'elle a été super parce qu'elle m'a dit mais écoute tu m'aides pas et tu les aides pas. Je venais d'avoir mon bac, je pense j'avais 18 ans.
Ouais
17 18 ans.
Tu restes petit.
Ouais. Ouais et puis mais bon je voulais quoi qu'il travailler dans le social aussi donc mais j'ai un problème des fois je peux me gâcher des moments je cache les moments de mes amis ou
on part en Inde, il y a des pauvres partout, c'est insupportable.
Quand je vais voir des gens au resto seul après je suis pas je mais c'est pour ça que l'humour ça a été chez moi ça a été un c'est pour ça que j'aime pas forcément me plaindre de ce que j'ai pu vivre quand j'étais petite, de choses ou quoi, parce que je me dis, la décence fait que, je sais pas, les gens, ils ont pas envie de...
C'est pas parce qu'il y a des problèmes plus importants qu'on n'a pas de problème, hein. Voilà.
Non, je sais, mais je me dis, je sais pas, j'ai envie de... Je veux voir la lumière, en fait. Je me dis, alors je suis pas en train de... Je nie absolument pas les choses tristes qui peuvent m'arriver, mais je me dis que... Il y a toujours une solution. Il faut toujours trouver une solution.
En 2005, vous écoutiez Encore de l'amour. À quel moment vous écoutez la musique en permanence ou vous avez des écouteurs ou à la maison dès que vous réveillez le matin et vous mettez
à
la
maison beaucoup.
Ouais.
On met beaucoup de musique. On met de tout.
Sur un tournage aussi, vous écoutez la musique ou pas ?
Pas pendant que je tourne. Non, j'ai besoin de j'aime pas avoir mon portable, par exemple, quand je tourne. Et ce que je fais, c'est que c'est tout un truc, c'est toute une organisation.
C'est-à-dire ?
Ben, les personnes qui sont avec mes enfants à ce moment-là, que ce soit, je sais pas, mon mari ou ma sœur ou une nounou, ils ont le numéro de l'assistante du plateau. Comme ça, s'il y a un problème.
Ah, parce que vous n'êtes pas joignable, vous n'avez pas de téléphone, pas de musique, pas de MP3,
pendant le,
rien.
Pendant le tournage. D'accord. Enfin, pendant la journée. Hein.
Mais vous êtes joignable.
Pendant deux mois. Pendant deux mois. Car je suis actrice avant d'être maman. Donc, il y a un moment où...
Et puis, il faut être sûr de ne pas vous réveiller pour rien, quoi. Parce que vraiment...
Pardon ?
Parce que si c'est juste une dent, on ne va pas vous réveiller non plus.
Oui, oui. Mais en tout cas...
Non, pour la petite souris. Si c'est la petite souris, si, quand même.
Non, mais je serai là pour la petite souris, surtout. Non, non, mais puis ils sont tout le temps avec moi. Surtout.
T'en fous la petite souris, tu fais un virement.
Oui.
Tu fais un Lydia.
C'est ce que je fais, mais j'ai refait des virements. Je fais un Lydia.
Un Lydia.
Je vais faire un Lydia. Ils ont des portables, évidemment.
Bien sûr. Évidemment. On est en 2005. On est en 2005 et c'est vos débuts au cinéma, Leïla Bekti. On a déjà parlé de Chétan, de Kim Chapiron, avec cette histoire folle, ce casting, de je l'annonce au dernier moment aux parents le matin même où je vais tourner, tant qu'à faire. Et puis il y a aussi Roche Dizem avec Mauvaise foi. Dans vos débuts au cinéma, être une jeune femme, pas forcément expérimentée, vous l'avez dit, vous n'avez pas pris des milliards de cours, ça vous positionne comment sur un plateau ?
Ça me positionnait, je jouais très à l'instinct, et puis voilà, vous parliez de Rushdie, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont encore plus importants aujourd'hui pour moi dans la vie, et qui m'ont appris l'exigence, qui m'ont appris aussi à me dire que l'instinct, c'est bien, mais il va falloir chercher l'instinct du personnage, finalement. Mmh. Et du coup, c'est ma manière de travailler qui a été différente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas... La seule chose qui a pas changé, c'est que j'ai jamais eu de stratégie en choisissant mes personnages. J'ai envie de faire des choses que je serais allée voir.
Ouais.
Moi, Les Intranquilles, c'est un sujet qui m'intéresse, même en tant que spectatrice. Donc voilà, après vous, je prends un avion pour rejoindre Jonathan Cohen pour La Flamme 2.
En Corse.
Et je suis hyper heureuse parce que je j'avais hâte de retrouver personnage
bande.
D'Alexandra et c'est ce que j'aime quoi. Je me dis
je t'aime.
Mais je t'aime, Marc. Marc. Il est là, Marc. mais c'est chouette, c'est ce que j'ai.
Et comment vous l'avez préparé ce rôle dans Les Intranquilles ? Quelle est la méthode si on parle vraiment boutique ?
Sincèrement, ce qui a été assez, on l'a vraiment préparé à. C'est Damien qui m'a dit la dernière fois, on était une personne à deux têtes quoi. Mm. Et on l'a vraiment travaillé ensemble, évidemment avec Joachim et avec toute l'équipe, le chef opérateur aussi, Jean-François, enfin Jeff, il a été. Il nous a suivis. Des fois, il savait pas qu'on allait sortir du cadre et il nous suivait. Enfin, c'était. C'est toute l'équipe du film, vraiment, et c'est pas
de
la maquilleuse
au
régisseur.
Il fallait cette liberté.
Non, j'en ai pas besoin.
Parce qu'au cinéma, il y a quand même la rigueur d'être à des places précises pour la lumière, pour la caméra, pour le point et ainsi de suite.
Là, c'était extraordinaire parce que justement, avec Joachim, il y avait une espèce de liberté où on savait pas vraiment ce qui allait se passer. Et au contraire, j'ai tourné des films où il y avait la contrainte, la contrainte d'un décor, la contrainte. Et c'est extraordinaire aussi parce que ça te c'est des challenges comme ça, mais c'est comme trop de liberté des fois. Quand il y a trop d'impro, faut savoir s'arrêter au bon moment aussi. C'est pour ça que c'est super moi les moments d'impro j'adore, mais faut que ce soit avec un grand metteur en scène parce que des fois tu t'arrêtes pas au bon moment.
En tout cas, là, y a pas de doute sur le travail, sur la qualité du film, c'est sûr. Merci. Ça s'appelle Les Intranquilles, c'est au cinéma demain. L'un des sujets, enfin le sujet, la bipolarité. Mais on l'a dit, c'est surtout une histoire d'amour. On voulait quand même évoquer cette maladie avec vous, Marc Masson. Merci de venir à ce micro. Vous êtes psychiatre, auteur de Les Troubles bipolaires dans la collection Que sais-je. Tout à l'heure, on a dit que bipolarité, c'était aussi le maniaco-dépressif. On pouvait passer par un état d'enthousiasme, d'hyperactivité, un état de dépression, de doute. C'est un mauvais résumé de la bipolarité ou c'est...
Non, c'est un bon résumé, Nagui, de la bipolarité. Alors, c'est vrai que ce terme de trouble bipolaire, il a été conçu dans les années 1980, pour remplacer le terme antique, je dirais, de maladie maniaco-dépressive. Alors, à la fois, il est plus passe-partout, et en même temps, il peut être trompeur, parce qu'on a tous une humeur qui oscille du plaisir au bien-être, jusqu'à la tristesse, voire la douleur. Donc on a tous expérimenté le fait que notre humeur n'est jamais stable, mais est toujours variable. Oui. Par contre, et j'allais dire heureusement pour la majorité des personnes, on ne souffre pas tous d'un trouble bipolaire, on pourrait dire hyper bipolaire, c'est-à-dire que ce sont des excès, des phases pathologique excessive, soit d'humeur trop exaltée, excitée, avec justement une agitation, une perte du sommeil, des idées qui s'accélèrent dans la tête, etc. C'est ce qu'on appelait, enfin, ce qu'on appelle la crise maniaque. Alors, c'est pas maniaque au sens où je range bien mes livres, etc. C'est au sens étymologique, c'est-à-dire au sens d'agitation, délire, fureur. Donc, il y a ces phases d'excitation tout à fait pathologiques qui alternent de manière assez aléatoire avec des phases de dépression. Alors là, la dépression, ça part plus à tous et à chacun parce que c'est une maladie, la dépression en elle-même, qui est plus fréquente. Qui, on en parle beaucoup en ce moment avec les assises de la santé mentale. Ça touche une personne sur trois ou sur quatre au long de sa vie. Oui. Mais par contre, la maladie bipolaire, le trouble bipolaire, donc cette alternance des phases pathologiques est beaucoup moins fréquente. Elle touche 2 à 3% de la population, ce qui est quand même déjà effectivement important quand on regarde dans nos familles, dans nos amis. On connaît tous probablement une personne qui souffre d'un trouble bipolaire.
On parle de trouble ou de maladie ?
Alors ça, c'est une bonne question. Bon, c'est, vous savez, c'est, ça a été le terme a été transposé en anglo-américain, donc disorder, bipolar disorder. Donc on a traduit un peu rapidement disorder par trouble, mais c'est une vraie maladie. Je pense que ça, il faut pas le perdre de vue, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance des traitements, des suivis, de la prise en charge. Donc qui dit traitement dit maladie en fait. Hein. Alors que trouble, c'est vrai que ça, déjà en français, c'est un concept un peu plus flou entre le normal, le pathologique, le flou, on sait pas trop. Non là, j'allais dire malheureusement, on parle d'une vraie maladie. Mais j'allais dire plus, bon, évidemment je suis médecin, heureusement on a aujourd'hui quand même des traitements, des psychothérapies, des prises en charge qui sont bien déployées pour
alors,
contrôler,
on va en parler,
tant que faire se peut, cette maladie.
C'est une maladie que l'on a ou que l'on attrape ?
Alors c'est une maladie qui se développe, qui a plusieurs facteurs causaux. C'est une maladie qu'on appelle polyfactorielle, comme souvent les maladies qui touchent le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe le plus complexe de notre organisme. Et donc, les pathologies qui vont le toucher, surtout les pathologies psychiques, ont souvent plusieurs déterminismes. Alors, il y a des éléments génétiques, mais c'est une hérédité complexe. C'est pas un gène comme un petit pois qui transmet à l'autre petit pois. Non, c'est un ensemble de gènes qui vont créer une vulnérabilité dans le cas du développement de notre cerveau. Notre cerveau, il devient adulte vers l'âge de 26-28 ans. Donc, ces processus de maturation s'achève au début de l'âge adulte. Et c'est à ce moment-là que cette vulnérabilité, qui se traduit comment ? Qui se traduit par une vie émotionnelle beaucoup plus riche, beaucoup plus intense que le tout à chacun. Et ça, on va le retrouver, y compris chez des apparentés de personnes qui vont déclencher la maladie. Donc c'est des personnes, qu'on va dire, ultra sensibles, un peu plus créatives que la moyenne, qui ont souvent un bon contact, agréable,
donc,
etc.
Donc des artistes, donc des...
Alors c'est pour
des,
ça que cette maladie est plus fréquente. Ouais. D'ailleurs, ça c'est vrai, les facteurs génétiques sont communs entre la créativité et certaines pathologies psychiques. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui vont souvent développer une créativité artistique ne vont pas déclencher la maladie en tant que telle, encore qu'il y a bien sûr quelques exceptions. Donc en fait, voilà, on a cette vulnérabilité génétique, fait que notre cerveau, dans la partie qui produit et qui régule les émotions, bah, il y a comme un, pour le reprendre le mot, un désordre, hein, un petit dérèglement, qui peut rester comme ça, j'allais dire quiescent, ou qui peut malheureusement décompenser et créer un premier épisode de la maladie, soit sur le versant dépressif, donc ça c'est dans 60% des cas, donc je dirais une dépression qui débute chez un sujet qui a 20-25 ans, c'est fortement suspect. Hein, la dépression classique, j'allais dire normale, plus fréquente, elle touche plutôt le sujet un peu plus âgé. Donc dans 60% des cas, cette maladie elle va se déclencher par une dépression, et dans 40% des cas, par une phase d'excitation pathologique, comme je l'écrivais tout à l'heure. Alors, à quel moment ? Eh bien, ça peut être un grand facteur de stress. Donc au début de l'âge adulte, qu'est-ce qu'on peut avoir comme facteur de stress ? Ben, on peut avoir une rupture amoureuse, on peut avoir un échec universitaire, on peut avoir un deuil de parents, on peut avoir un accident, un gros stress. Et ça, donc sur un système émotionnel un peu précaire, crac, ça va provoquer un premier épisode. Alors évidemment, si c'est une dépression, on fait pas toujours le diagnostic d'un futur trouble bipolaire. Si par contre c'est une phase d'excitation pathologique où là souvent la personne est hospitalisée, le diagnostic est plus rapidement posé et donc les traitements adaptés qui sont pour l'aspect médicamenteux des traitements qui vont viser non seulement à guérir l'épisode mais à prévenir les rechutes ultérieures puisque malheureusement c'est une pathologie cyclique qui se traduit donc par un fort risque de rechute avec le temps.
Il y a un risque d'atavisme, de transmission de père en fils ou
alors,
de mère en fille.
Comme je le disais tout à l'heure, c'est une hérédité complexe, c'est une hérédité polygénique et ce sont des facteurs de vulnérabilité. Donc c'est pas parce que mon père ou ma mère souffrent d'un trouble bipolaire que dans 100% des cas, je vais en souffrir. Même les vrais jumeaux...
Mais il y a de plus fortes chances.
Mais Absolument. Voilà. Mais même les vrais jumeaux, hein, qui ont des patrimoines génétiques tout à fait identiques, ne vont pas développer dans 100% des cas la maladie. Bon, par contre, effectivement, il y a un risque plus élevé. Je disais tout à l'heure que dans la population générale, c'est 2 à 3% des individus. Si mon père souffre d'un trouble bipolaire, je vais avoir 15% et non plus 2 à 3% de risque d'avoir de développer le trouble.
Et ce sont plutôt les proches, la famille, l'entourage qui le remarquent, qui alertent le corps médical, parce que le malade ou le patient ou la personne elle-même ne se rend pas forcément compte.
Alors oui, il y a deux catégories d'épisodes, comme je le disais rapidement. Donc les épisodes dépressifs, ça, quand on souffre d'une dépression, on s'en rend compte malheureusement parce que ça fait mal, parce qu'on est pas bien.
On n'a pas toujours la démarche,
mais on est plus conscient du caractère pathologique anormal de ce qu'on traverse. Par contre, quand c'est une phase d'excitation, surtout quand c'est la première, ça commence progressivement ces phases d'excitation. Au lieu de dormir 6-7 heures, on va dormir 4-5 heures, on va sentir plein d'énergie, on fait de l'humour, pas peut-être aussi bien que nos intervenants, mais voilà, on associe rapidement les idées, on trouve ça sympa, et donc, bon, nous, on n'a pas du tout idée d'aller chez le médecin.
Ouais, c'est ça.
Voilà, bon. Par contre, après, ça peut s'emballer et devenir de plus en plus important, et là, on perd totalement le sommeil, on peut déambuler dans la rue, avoir des comportements désordonnés, et là, pour le coup, on finit par être amené à l'hôpital, soit par la famille, ce qui est le cas le plus souvent, soit par les...
C'est exactement ce qu'on voit dans le film. Merci Marc Masson d'être venu à ce micro, c'est extrêmement clair et enrichissant. Voici le héros du jour, Monsieur Daniel Brun.
Oui.
Tu parles du héros du jour, tu n'es pas le héros du jour.
Non, pas tous les jours. Chers amis, le délit de faciès peut attraper et frapper à tous les niveaux, même au plus haut niveau. Le week-end dernier, à Lyon, le président Macron avait invité à dîner de grands chefs étoilés pour un repas de gala dans cette grande ville, symbole de gastronomie. Parmi ses invités prestigieux, Marcel Ravin, chef étoilé martiniquais. Il arrive, tranquillou, à la préfecture où a lieu le dîner. Là, bonsoir. Bonsoir, désolé, c'est une réception privée. Ne restez pas dans le passage, merci. Oui, je sais, je suis invité, voici mon carton. Ah, le problème, c'est que vous n'êtes pas sur la liste, mon bon monsieur. Allez, circulez. Mais il n'y a pas de mais, ne restez pas là, vous gênez. Humilié, Marcel Ravin quitte les lieux. Erreur malencontreuse, diront plus tard les organisateurs. Déçu, Marcel Ravin rentre dans un bistrot voisin et s'envoie une andouillette. Et c'est là qu'intervient mon héros du jour, ou plutôt mon héroïne. Oui, aujourd'hui, Nagui, mon héroïne, c'est l'andouillette.
Mais non.
Pourquoi? Eh bien parce que, après l'humiliation, rien de tel qu'une bonne andouillette pour se remonter le moral. L'andouillette, c'est pas chichiteux comme de la bouffe de palace. Le caviar et la sauce chasseur, ça pique les yeux. L'andouillette, ça apaise. L'andouillette, c'est la lutte des classes dans ton assiette. C'est 125 grammes de bonheur à base de boyaux de porc. Parfois, oui, c'est vrai, ça sent un peu l'urine. Mais bon, ça, côté terroir, ça rassure. Et puis l'andouillette, c'est plus qu'un repas, c'est presque une ambiance. Avec l'andouillette, tu te régales et tu gardes en souvenir pendant des heures le relent patriote et porcin du repas incrusté dans tes dents creuses et tapis sous ta langue. Le peuple aime l'andouillette et quand le peuple est humilié, il y trouve le réconfort. Vive l'andouillette! Une andouillette qui ne mérite certainement pas les organisateurs de cette soirée fiasco, organisateurs qui, à défaut d'être mes héros du jour, sont certainement mes cons de la semaine.
Merci, Daniel. Tanguy Pastureau, de quoi vas-tu nous parler après les infos?
Eh bien, Nagui, je vais vous parler des œufs. Hier, Emmanuel Macron a pris un œuf sur sa veste, lancé par un terroriste de chez Lustucru. Et depuis, moi, j'ai faim.
De pâtes
et de tout ça.
À propos de faim et de manger, est-ce que c'est vrai que le réalisateur, Léla Becti, vous a demandé de prendre du poids pour le film? Parce qu'il y a une vanne qui est faite dans le film en disant, voilà, je craque, j'en peux plus. Ouais. Regarde, je m'occupe même plus de moi, ouais. Je mets plus de crème, je me soigne plus. J'ai pris 15 kilos.
Là, elle est vraiment
pas bien. Elle est au bout du rouleau. Ouais.
Non, en fait, il m'a demandé de pas maigrir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je venais d'accoucher et donc j'avais du poids en trop et je voulais. Ça faisait plus de 2 ans que voilà, j'avais 15-20 kilos en trop, donc j'avais envie de redevenir, enfin, de mettre des jeans, quoi. Voilà.
De pas gâcher tous ces fringues qui attendaient dans le placard.
Non, mais en plus, j'étais bien, c'est pendant ces 2 années, mais en fait, voilà, j'avais envie de me sentir autrement. Et okay. C'est là où il m'a demandé, il m'a dit, écoute, mais ça, il a été très délicat. Vraiment, il me l'a vraiment demandé. Il m'a dit, j'ai jamais osé demander à une actrice de prendre du poids. Et du coup, vu que là, t'as le poids idéal pour le personnage, est-ce que tu peux rester comme ça?
Je vais te demander de pas en perdre.
Ouais, mais ça sert.
Mais non, mais c'est chouette, j'ai trouvé. Et puis, il m'a dit, évidemment, tu décides. Et puis, je suis rentrée à la maison, j'ai relu le scénario. Et je me suis dit qu'effectivement, c'est intéressant, même pour le spectateur, je trouve, justement, quand elle dit, je m'oublie. Moi, je suis aussi spectatrice. Et quand je vais au cinéma et que je vois une actrice qui dit, je m'oublie, alors qu'elle a des cils qui vont jusqu'à Porte d'Orléans. Je me dis, bah non, en fait, j'aimerais bien m'oublier comme ça, moi aussi. Ouais. Ça fait... Non, mais c'est vrai, quoi.
C'est comme, sinon, c'est comme celle qui se réveille, bien, c'est comme celle qui se réveille le matin dans, bah, le, dans le lit au cinéma et qui est déjà maquillée.
Oui, 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 bah oui, parce que c'est...
Ouais,
évidemment.
Bah
oui, évidemment.
Les intranquilles...
Moi, je me réveille comme ça avec le rouge à lèvres. Hein,
ah, c'est des soirées.
La vérité est avec nous jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale avec Elena Gadon-Denis, avec Morgane Cavignan, Florence Mendes, Tanguy Pasturo, Daniel Morat et notre invité, Leïla Bekti. Pour cette belle et forte histoire d'amour, Leïla et Damien s'aiment profondément. Il y a un enfant qui est ballotté entre les deux. D'ailleurs, il passe de, j'ai envie de dire, dans le film, de l'un à l'autre en termes de partage d'activité, de passion et d'amour. C'est extrêmement tendu. C'est une maladie. C'est, j'allais dire, ça pourrait être l'alcoolisme. L'alcoolisme aussi est une maladie. Mmh. Mais quelle que soit la maladie, en l'occurrence là, c'est bipolaire. Mais en l'occurrence, dans cette situation-là, dès l'instant où une maladie vient frapper, ou un drame vient frapper un couple, une histoire d'amour, comment, qui tient le couple ? Ça, là, c'est la femme, ça pourrait être l'homme si les choses étaient inversées, mais c'est une formidable déclaration d'amour avec le côté « je ne lâche rien ». Ça serait trop facile de dire « tu sais quoi, t'es malade, tu vas à l'hôpital, tu prends tes cachets, moi je me casse ». C'est pas le cas, elle se bat.
C'est pour ça que le couple, c'est quelque chose... Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut pas... C'est dans le bon comme dans le mauvais, c'est tellement irrationnel l'amour qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de...
Oui, sauf que dans les moments de calme et où la maladie n'est pas là, ils sont tellement heureux.
Bien sûr, mais malheureusement, c'est aujourd'hui, c'est ce qui les lie.
Ouais.
C'est cette place qu'ils se sont donnée, elle est liée à cette maladie, donc c'est très...
C'est un couple à trois, quoi.
Ouais, exactement.
Avec l'amour en plus, c'est ça? Le troisième.
Non, pas la maladie.
La maladie, là.
Ouais, oui, oui, oui. Alors, à quatre, à ce moment-là, tu fais quoi d'amour?
Non, mais l'amour,
c'est un pléonas.
C'est le
pléonas.
Il est là.
Vous ne comprenez rien, c'est terrible, quand même.
Il a du mal.
Avec le concept d'amour, c'est
surtout avec le trouble que j'ai du trouble.
Nagui aussi, c'est dans son trouble.
T'as pas toujours dit ça.
T'as
pas toujours dit ça.
Vous êtes trop nombreux dans ma tête, là. Sortez tout de suite. Voici Tanguy Pasturo.
Coucou. Je ne comprends pas qu'on puisse jeter un œuf sur Emmanuel Macron. Si encore Emmanuel Macron était une farine, je me dirais, ok, quelqu'un a voulu faire des crêpes. Mais Emmanuel Macron n'est pas une farine. On le sait parce que quand il prend sa douche, il n'y a pas de grumeaux. Ou alors son épouse est très discrète sur le sujet. On comprendrait qu'elle est honte, hein. Ce serait pas facile d'être marié à Monsieur Biscuit. Hier, j'étais tranquille en train de relire Guerre et Paix, enfin, la flûte à six schtroumpfs, quand soudain, sur mon iPhone 16 Pro Max Top Génial, que j'ai acheté à Barbès 20€, c'est marrant, d'ailleurs Apple maintenant écrit le nom de l'iPhone au marqueur sur l'appareil. Bon. Est apparue une alerte avec écrit Macron cible d'un jet d'œuf lors d'un salon. Première pensée, je me suis dit, il a croisé une poule qui n'a pas pu se retenir. Hein, c'est comme nous avec l'urine ou les blagues sur les nains, on essaye de se retenir, à un moment ça sort. Mais j'ai creusé le sujet, ce métier de chroniqueur est épuisant. Les jeunes font plutôt un boulot de branleur comme député des Côtes du Nord. Le département n'existe plus sous ce nom depuis 90, vous serez peinard. Et j'ai réalisé qu'Emmanuel Macron visitait hier à Lyon le salon de la restauration et de l'hôtellerie. Nourriture et sommeil, donc une forme de paradis. Hein, il manque plus qu'un petit coin bondage et l'ensemble des besoins de base de l'être humain sont satisfaits. Donc le président se balade dans le salon, disant à des gars des trucs comme « Bah mon Roger, t'as de beaux jambons », quand soudain, un œuf lui arrive dessus, très vite. L'œuf vient taper Emmanuel Macron, mais rebondit sur lui. Macron, c'est une sorte de poupée gonflable, mais sans pipette pour souffler dedans. Vous lui jetez un objet, il vous revient dessus. Un jour, son petit neveu a voulu lui sauter dans les bras, il a fait un rebond de 3 mètres et allé s'encastrer dans le plafond de la salle à manger. Et il y est toujours, lui lance des bouts de viande pour qu'il survive, et il a eu son BTS par correspondance récemment. Lyon Mag, le site des Lyonnais qui kiffent leur ville, précise que l'œuf n'était pas un œuf dur, ce qui aurait voulu dire que l'auteur de l'attaque aurait prémédité le geste, encore plus si elle avait lancé une omelette au cèpe avec sa salade. Ma conclusion est donc qu'Emmanuel Macron est une entité divine. Il peut se jeter à plat ventre sur un matelas de 400 œufs, il n'y en a pas un qui se brise, c'est le Jésus des œufs. Hein, je peux vous dire qu'à Loué dans la Sarthe, ils sont en train de bâtir une chapelle à son nom, seule chapelle à bénéficier du label rouge. Alors l'auteur de l'acte est un jeune homme, hein, qui a crié « Vive la Révolution !» Voilà, c'est comme 1789, mais avec des œufs. Hein, en gros, vous remplacez Robespierre par la mère Poulard, c'est tout. Il portait, nous dit le site de Libération, un Bermuda. Et alors ça fait des années que j'alerte sur le sujet.
Choquant.
Personne ne m'a écouté. Et un jour, un mec en doudoune sans manche va lancer un steak sur Darmanin, on fera encore semblant de s'étonner. Alors que quelqu'un qui ne se respecte pas ne peut pas respecter les autres. Le Bermuda, ça signifie qu'on a renoncé à sa dignité. Encore en
août dans un bar de plage, ça passe, tout le monde a le cornet défoncé au Spritz. Mais fin septembre, en ville, à Lyon, le Bermuda, c'est non. Bref, l'agresseur a été emmené dans une pièce à part, et là, Macron, qui est resté stoïque, hein, comme quand il s'était fait gifler, quoi qu'on fasse, il ne bouge pas. Il était fait pour l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta ou pour devenir garde royale d'Elisabeth II. Bon, Macron a dit, s'il a un truc à me dire, qu'il vienne. Alors que si on analyse la situation, a priori, lorsqu'une personne vous jette un œuf, c'est qu'elle n'est pas venue pour tchatcher. Hein, le fait de lancer quelque chose indique qu'on ne veut pas causer. D'ailleurs, qui ici a déjà eu une conversation avec un lanceur de javelot ? Je suis sûr, personne. Hein. Et moi, l'individu qui a lancé Maître Gims, pareil, je refuse de lui parler. Ou alors dans l'enceinte d'un tribunal, quand les juges voudront bien se pencher sur la programmation de Fun Radio, au lieu de porter un jugement hâtif sur les serial killers hein, qui pâtissent de leur mauvaise image. Bon. Puis Macron a ajouté, j'irai le voir après, allez le chercher. Il y a donc eu un monsieur en Bermuda en train de poireauter, hein, comme pour l'activité ski nautique au Gros du Roi en août. Alors ensuite, Emmanuel Macron a continué sa visite du salon. On lui a lancé deux choucroutes, 24 saucissons et un lot de petits filous aux fruits mixés. Tous ont rebondi sur lui. Hein, en sortant du salon, un basque lui a demandé de se tenir droit. Il a joué trois quarts d'heure à la pelote sur le chef de l'État. Et alors certes, tout ça prête à rire. Mais un, on ne joue pas avec la nourriture. Bon. Deux, il faut condamner tout acte de violence. Enfin, il y a la parole pour exprimer son malaise. Si vous allez voir un psy, vous lui jetez pas un paquet de balistes dans la tête. Ah bah non, ça vaut 5,80€ plus les 60€ de la séance. Ça ferait un après-midi trop coûteux. Philippe Martinez de la CGT ne lance pas des merguez sur Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Hein, ou alors c'est Guy Blanquer à côté, comme ça on met une merguez entre les deux, bon ça fait sandwich. Hein, moi qui suis allergique à toute forme de violence, même sublimée, hein, la seule fois où je suis allé voir un match de foot, je me suis mis à crier « Allez tout le monde !» Hein, des gens criaient au chiot de l'arbitre, je disais « Non, au salon l'arbitre, c'est quand même plus cosy, le pauvre il est déjà mal payé par rapport aux autres. » Mais moi je ne comprends pas qu'on lance des chose sur des gens. Vous ne croyez pas qu'Emmanuel Macron, il préférait qu'on le caresse ? Enfin, c'est un être humain, il a sa sensualité. Vous lui passez un œuf, tout doucement dans le dos, en disant, vous savez monsieur, je suis pour la révolution. Et vous répondra, vu comme ça, moi aussi, appuie avec l'œuf. Tu peux y aller, sur moi, ça n'éclate pas. L'œuf, quand il est fécondé, c'est le résultat d'un amour, celui du coq et de la poule, ou du volatile A et du volatile B, si on souhaite dégenrer le propos. Donc, un œuf, ça se respecte, et un être humain aussi, d'autant qu'en jeter sur Macron, ça ne sert à rien. Ça rebondit.
Merci.
Et Tanguy, on se retrouve sur scène le 28 octobre à Saint-Grégoire, c'est près de Rennes.
Oui. Les Intranquilles, formidable histoire d'amour. Cet amour est extrêmement fort entre Leïla et Damien. Et histoire d'amour, pardon de faire un peu de pipolerie, mais lorsque à Cannes vous vous retrouvez au festival et que votre histoire d'amour personnelle se retrouve mêlée à la présentation du film, vous avez géré ça, m'a-t-on dit, en faisant chambre à part, c'est vrai? Ou c'est une rumeur
Oui, oui, people. Non, on n'avait pas. Après, on se parlait quand même. Hein. J'ai pas divorcé pendant le festival.
Vous voyez, vous êtes pas une vraie.
C'est un concept.
Voilà.
On va semer le trouble dans la compétition.
Non, mais c'était de toute façon, il avait absolument pas le droit de me dire ce qu'il voyait. Et puis pour être tout à fait honnête, j'étais pas du tout contente de cette situation parce que ce que je disais, c'est que c'est la personne qui est la plus dure avec moi tard. Donc c'est compliqué. Après. Pour ce qui est de son objectivité, j'ai même pas pensé tellement je savais que il allait ça n'allait même pas être un sujet pour Spike Lee ou les autres personnes du jury. Ils savaient très bien. Enfin, c'est un acteur qui dans ses choix il nous prouve que il est exigeant et que donc s'il avait envie de. Et puis même, je sais pas d'ailleurs comment ça s'est passé. Pendant
la projection,
mais il y en a peut-être qui n'ont pas du tout aimé ce que j'ai fait peut-être, mais c'est leur droit et.
Il paraît qu'il a passé son temps au téléphone.
Ah oui.
Ouais, d'accord. Et Gabriel, alors, et comment le gamin vit un festival de Cannes, des marches, enfin ça vous avez partagé avec lui.
Bah écoutez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Gabriel, il était à l'avant-première là avant-hier et puis. Il est heureux de nous voir surtout. Donc moi j'ai gardé contact avec lui parce que c'est un petit garçon qui est. J'ai eu la chance de vivre plein de moments personnels avec lui parce que moi j'avais la maison avec les enfants donc il venait souvent et on est devenus assez proches. Mais ça reste un petit garçon en fait. Donc du coup le festival de Cannes c'était l'endroit où il retrouvait les gens de l'équipe qu'il avait adoré. Mais ça aurait pu être à Reims, partout quoi.
Et la scène de la table, parce que dans le reste, j'ai envie de dire, il joue, mais la scène de la table où il fait de la vanne, ouais, ouais. C'est ça, il casse entre guillemets.
C'est là où c'est super. À la base, il devait chanter. D'accord. Il devait chanter justement le la chanson de début du film. Et en fait,
les idées noires.
Pardon, pas idées noires. La chanson de Ferrat.
Mes amours.
Voilà, mes amours.
D'accord.
La justement, vie n'est qu'une chimère.
C'est là où c'est. Si l'amour n'y vient pas. C'est super parce que avec Joachim, on a tellement discuté, on a tellement, et puis on se l'est dit ensemble. On s'est dit, mais ce serait drôle qu'il a assisté à cette scène. C'est ce qu'il a. C'est quand même fou. Il y a quand même Damien qui dit, il faut changer de table. Et non, je risque pas de m'asseoir à cette table
c'est ça,
parce que,
enfin.
C'est, et mais du coup, top, c'était ouais. plus drôle et surtout plus vrai, ouais. je trouve.
Ouais, que surtout qu'il y a un petit moment de flottement au début. On se dit non, mais il est pas en train de passer lui aussi
ouais,
de
ouais,
l'autre
ouais,
côté.
Exact.
Et super puis, bien. Et puis, super fort.
Et c'est ça, c'est que voilà, c'est des travail comme ça qu'on a fait à trois et Joachim a été.
Alors à trois justement avec Damien Bonnard qui est en ligne. Bonjour Damien.
Ah. Bonjour, mes amours.
salut Damien.
Pour être avec vous, mais je suis un tout petit peu de loin. Et je suis tout à fait d'accord avec cette scène de la table.
Oui.
Non, ce qui est magique, en fait, dans cette scène de la table, c'est que il vérifie quelque part si ça va mieux pour moi, et en même temps, il essaie de nous réconcilier. Et
moi, exactement.
Bon, en fait, cette scène.
Ouais.
Je sais pas tout ce que vous avez dit avant, parce que je découvre, j'arrive en plein milieu, mais
On vous a insulté, les deux.
On a dit beaucoup de bien du film, beaucoup de bien de vous, de votre jeu, de Leïla. Et non, mais sincèrement.
Et de vos toiles.
On a adoré.
Ouais, de vos toiles. Donc, j'ai demandé officiellement à la radio, Damien, que tu me fasses une toile. Voilà.
D'accord.
Donc, tu peux pas.
Je me suis engagé depuis longtemps, mais d'ailleurs l'expo ouvrira le 8.
Oui, on en a parlé. Ne t'inquiète pas.
Attends, on est là. Nous sommes des professionnels, Damien Bonnard. Qu'est-ce que vous croyez?
On va même donner les prix.
À la galerie cinéma.
Est-ce que moi je voulais savoir si physiquement, et on va vous libérer parce que vous êtes en tournage et merci d'avoir pris le temps de nous appeler. Est-ce que physiquement c'était éprouvant comme rôle parce que on vous voit entre guillemets souffrir. Alors oui, on peut dire c'est il joue celui qui souffre, mais le faire autant sur autant de scènes et d'une manière aussi énergique, je sais pas si ça ne vide pas physiquement les batteries que l'on a sur soi.
Ben non, parce que ce film m'a apporté plein de choses, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas faire, mais dépassé peut-être, mais non, en fait là où je m'y attendais pas, c'était que je pensais que les scènes de dépression vraiment profonde serait le plus facile à jouer, et en fait ce qui me demandait le plus d'énergie, de trouver la non-énergie, c'était ça, c'était des journées qui me vidaient, de trouver le bon rythme, la lenteur, la locution, l'espèce d'être tombé par les médicaments et d'être tombé par ce qu'on fait subir à sa famille et par soi-même en fait. Mais sinon c'était quand même un tournage plein d'énergie, au contraire, tout le temps.
Et vous,
c'était un truc collectif.
Et vous aussi, vous le définissez comme une formidable histoire d'amour, ce film?
Ouais, complètement.
Parfait. Vous tournez quoi sans discrétion en ce moment?
C'est complètement secret.
Ok, et c'est quoi?
Non, je peux vous le dire. Je fais un biopic sur vous, Nagui.
Ah bien.
Vous-même.
On a tellement le même physique,
c'est
Damien.
C'est une surprise, mais...
et là, je comprends que vous tourniez loin.
Et là, je comprends qu'il est vraiment en dépression. Quand il voit, quand il voit ce qu'il doit jouer, la tristesse de la situation.
Non, mais... Ce film, il fait du bien parce que faut le voir, parce qu'il a une telle force sur l'amour et justement sur comment continuer à faire vivre les choses, et même si des fois elles sont renversées, c'est un film qui parle de tout ça, en fait, de comment tenir le cap et voilà, et avancer là-dedans. Mais c'est avant tout ça, une histoire d'amour, une belle histoire d'amour.
Une belle histoire d'amour.
Je l'ai dit plusieurs fois, cette famille, elle me manque. Tous les jours.
Que vous portez formidablement bien, j'ai envie de dire tous les trois, puisqu'on parle de famille. Gabriel, Leïla et vous. Merci Damien, bon tournage et merci
à vous. Bisous Damien, je t'appelle tout à l'heure.
Accepté par un téléphone comme ça, quelques minutes, je suis heureux d'avoir été un peu avec.
C'est gentil.
Tu m'étonnes. Je t'embrasse fort, je t'appelle tout à l'heure.
Bon, je vous embrasse.
C'est Leïla qui parlait, c'est pas moi.
The Artist, l'émission qui met en avant des auteurs, compositeurs, interprètes. Ça sera en direct vendredi soir à 22h40 sur France 2 avec Jean-Louis Aubert en président du jury, mais tous les soirs à 20h Leïla Bekti, Leïla Kadon, vous dédie.
Leïla Bekti sera donc en direct. Non, sera sur Culturebox tous les soirs à 20h.
Le canal 14. Et tu reçois qui ce soir?
Ce soir c'est Pascal Obispo, et hier on était avec Louis Bertignac, et avec Louis on a évoqué la notion de
de production, d'être un producteur. Et l'avantage avec Louis Bertignac, c'est qu'il a été à la fois artiste, on l'a connu dans Téléphone et aussi en carrière solo, et aussi producteur. Mais déjà, c'est quoi un bon producteur pour lui ?
J'ai adoré leur état d'esprit, parce qu'il faut être capable de s'oublier soi-même, être bienveillant, c'est-à-dire mettre les gens à l'aise, parce qu'ils ont du boulot, il faut qu'ils chantent, il faut qu'ils jouent, qu'ils soient à l'aise dans un studio. C'est ce travail d'un peu... j'ai rencontré vraiment des grands producteurs, vraiment, qui, même en solo, surtout en solo, qui m'ont mis à l'aise, parce que c'est pas facile.
Et ça, c'est dans cette première expérience d'artiste. Et puis un jour, il s'est dit, tiens, et si moi aussi, je m'intéressais à la production. Et la première artiste qu'il a envie de produire...
C'est généralement des femmes, d'ailleurs, qu'il a
majoritairement. Ouais. Là, c'est Carla Bruni, avec son premier album.
Quelqu'un m'a dit.
Elle me fait écouter les maquettes, et je lui dis, bon, écoute, les chansons ont l'air bien, mais les arrangements sont pourris. Puis je dis, ben, file-moi deux morceaux, quand même, et je vais te montrer ce que c'est un morceau quand il est produit.
Et vous avez donné quel morceau ?
Quelqu'un m'a dit et tout le monde. J'ai dit, on va garder ta petite guitare sèche, je vais juste la refaire parce que c'était pas très propre. Et après, on va faire venir un petit quatuor de violon. J'ai enregistré ces deux titres vite fait. En une nuit, j'ai fait les deux. Et puis, j'ai dit, regarde ce que j'ai fait le lendemain. Et elle me dit, bon, bah, tu vas produire mon album.
Alors le quatuor de violon, hein, c'est une fille qui vient jouer du violon et il la multiplie par quatre parce qu'il n'avait pas les moyens et il s'est dit voilà, on va bricoler. C'est voilà, il nous a mis un peu sur la piste de ce qu'est un producteur et c'est un rôle essentiel. C'est essentiel un producteur dans la carrière d'un artiste et surtout de faire la belle et la bonne rencontre.
Et c'est drôle parce que juste après la masterclass, de grands enfants étaient sur le parking avec Louis Bertignac et avant qu'il ne monte dans le taxi, ils lui ont joué un morceau de guitare. Mais vraiment le taxi poireauté et il a écouté le morceau mais pendant 45 secondes et il leur a dit mais c'est un tube et il dit et je veux le produire et ça s'est fait sur le parking juste avant de monter dans le taxi, ils ont topé comme ça.
C'est comme ça que j'ai fait mon fils.
Ah mais non.
Ça a duré 45 secondes.
Donc ce soir, rendez-vous avec Pascal Obispo. Pascal Obispo, ouais. Très bien. Rendez-vous avec The Artist, donc des auteurs, compositeurs, interprètes, et ça sera en direct vendredi soir, 22h45, sur France 2. Laïla Bekti est à l'affiche, donc, des Intranquilles à partir de demain. Et puis, il y a la troisième guerre.
En ce moment au cinéma. Avec Anthony Bajon et Karim Leclou.
Qui est génial. Exactement. Ouais, qui est vraiment génial, et c'est super aussi de vous voir dans ce rôle-là.
Et dans La Vengeance, au triple galop aussi.
Ah, bien sûr. Ah oui, j'en saute. Quel cavalier. Ah ouais.
Quel cavalier.
Ah ouais, cette scène.
On arrive avec. Non,
mais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Les talons et tout, c'est n'importe quoi.
Cette coupe.
Non, mais bien sûr.
Ce make-up.
Bien sûr, évidemment. Les fausses crèmes de jour et les vrais crimes de soir.
Les vrais. Exactement. C'est
vrai. Mais là, entre Alex Lutz et Jonathan Cohen, vous aimez ce genre de parodie, de lâcher prise et de casser votre image d'actrice?
Ouais, mais j'ai même pas le sentiment de casser une image. C'est que je me dis, mais c'est génial, moi, moi, les feux de l'amour, Côte Ouest, c'est ça. Ça ouais. Moi, j'ai regardé
Gary de Côte Ouest.
Voilà. Et puis surtout, il y avait des soaps comme ça américains où t'avais que ils pouvaient faire qu'un plan. Donc du coup, ils se parlent, mais ils ne se regardent. Les deux acteurs ne se parlent pas. Ils regardent droit devant eux, ce qui n'existe pas dans la vie. Et d'avoir pu le faire dans le film d'Alex Lutz, mais c'est extraordinaire. Et puis pareil pour Jonathan, Marc, ça va rester longtemps. c'est génial.
Tout à l'heure, vous évoquiez les années d'adolescence ou du passage de l'adolescence à l'âge adulte en disant mais à 18 ans, est-ce qu'on se rend compte exactement de ce que l'on fait, de ce que l'on aime faire, de ce que l'on peut faire? Et ça va être carrément le sujet de votre première réalisation.
Oui, après ça va être plus sur l'histoire d'une fratrie.
D'accord.
De trois frères et sœurs, donc de 18, 19 et 9 ans. Donc je l'écris en ce moment avec mon co-scénariste Romain Olivaux et du coup là on va se retrouver là dans deux semaines pour parce que j'aimerais bien qu'à la fin de l'année il soit pas fini, en tout cas que je puisse le faire lire.
Et puis Laïla Bekti chante.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout.
On se demande si c'est la BO de À nous regarder, ils s'habitueront, c'est-à-dire votre film, parce que c'est aussi la famille qui est le sujet de cette chanson, que vous avez totalement écrite.
Non.
Ah bon,
c'est Fabien. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Fabien m'a appelé il y a 3 mois. Fabien Grand Corps Malade, pardon, m'a appelé il y a 3 mois en me disant, écoute, je vais faire la réédition
de Mesdames,
son album. Et voilà, j'ai envie de chanter un titre avec toi. Et je lui dis, non mais n'importe quoi. Il me dit, écoute, tu peux choisir le sujet. Si ça te plaît pas, on le sort pas. Et puis en rentrant à la maison, je me suis dit, ça fait longtemps que je me dis, il n'y a pas trop de chansons sur la famille. Et puis je me dis, bah, si cette chanson, elle ne sert qu'à dire aux gens que j'aime que je les aime, et ben bah, ça aura valu le coup. Donc voilà, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup Fabien. Et j'espère qu'on va faire d'autres choses ensemble.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours, on te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà, désolé pour tous les réalisateurs exigeants qui avaient prévu de travailler avec Leïla Bekti. Vous l'avez entendu, maintenant elle fait n'importe quoi. Elle l'a dit, elle sort du cadre, maintenant elle veut de la liberté, Madame Bekti. Laissez tomber les gars, sinon elle va passer son temps à courir et vous courir après elle, ça va être très compliqué. Et enfin, désolé pour la belle-sœur de Leïla Bekti qui m'a appelé à la pause en larmes pour me dire qu'elle attendait toujours d'être rémunérée pour son idée de mettre idée noire dans le film. D'ailleurs, elle en a profité pour réclamer également son fric pour les heures de garde d'enfants. Voilà, le message est passé. Leïla, merci. Merci de régler vos dettes. Hein, et bonne journée quand même.
Les Intranquilles au cinéma, demain avec Damien Bonnard, avec Gabriel Chama et Leïla Bekti. Merci Leïla d'être venue.
Merci à vous, c'est super, merci beaucoup.
Et j'espère à très bientôt pour parler de tous ces projets. Il y a notamment Pleurer des rivières aussi, La Grande Magie. Non, il y a plein de...
Non,
je mélange. Pardon, c'est Damien. Non, je mélange
avec Damien. Damien, c'est mon mari, je peux parler de lui. Il n'y a pas de souci.
Demain, Marc Duguin et Valérie Bonneton seront nos invités. Passez une bonne journée. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.